silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma.
Te chercher, je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Te chercher.
Et oui, on revient vous chercher, amis auditeurs, pour devenir spectateurs dans les salles de cinéma. Et c'est Anne qui est là pour vous en parler. Ouais. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Et oui, c'est le leitmotiv de la publicité là, qui nous disait que les cinémas étaient rouverts. Voilà. Comme elle est très jolie, du coup, j'avais envie de l'entendre encore. Bonjour mes chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je ne sais pas, vous êtes peut-être tranquille. En ce moment, il fait beau. Et puis, quelquefois, quand on peut, après manger, on fait une petite sieste. Mais en écoutant la radio, évidemment, ça va de soi. Et du coup, bon, bah, là, on parle de quoi, là, déjà ? De cinéma, je crois, c'est ça ?
Oui, de cinéma et de soupe aux choux.
Ah, voilà, c'est ce qui me semblait. Et la tarte au citron aussi, d'ailleurs. Oh, dites donc, on n'est pas sérieux, Damien et moi, hein, aujourd'hui. Oh là là, c'est le soleil. Ça tape et un peu, là.
Alors, en ce 22 juillet 2020, okay. Quels sont les films qui sortent aujourd'hui ? Vas-tu nous le dire ?
Oui, bah peut-être. Oui, bon, parce que c'est vous, hein, parce que c'est toi, parce que c'est vous, et puis que voilà, qu'on vous aime tous. Hein. Alors, on va commencer par un film qu'on peut regarder à partir de 10 ans. Ah, ma petite copine, elle est peut-être pas assez vieille. Ça dépend s'ils demandent la carte d'identité à l'entrée. Et c'est à partir de 10 ans, conseillé. Mais je pense que ça peut se faire un petit peu avant. Ça s'appelle Mulan. Et oui, et on en avait parlé il y a un moment déjà, parce que normalement, le film devait sortir le 25 mars. Eh oui, ça m'ennuie de rappeler cette date, cette sombre date. Mais bon, c'est vrai que... Excusez-moi. Et là, ça a été repoussé donc au mercredi 22. Voilà. C'est bon. Bah, au moins, ça sort. C'est déjà ça. C'est un très joli film en plus. C'est réalisé par Nikki Caro, qui est une réalisatrice, scénariste, productrice déléguée. Elle est néo-zélandaise. Elle est très connue d'ailleurs en Nouvelle-Zélande parce que elle travaille beaucoup pour Disney. Donc, ils la connaissent bien. Elle a 52 ans. Elle a déjà eu des nominations. Et là, on va en parler après, mais il y a un chouette casting, en fait. Donc, c'est quoi, ça? Mais c'est un film d'aventure, hein. C'est pour la famille. C'est fantastique. C'est américain. Et c'est l'histoire de l'empereur de Chine. Lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord. Hua Mulan, fille aînée d'un vénérable guerrier, désormais atteint par la maladie, bah oui, le papa est malade, donc elle décide de prendre sa place au combat, se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun. Elle se voit mise à l'épreuve à chaque étape du processus d'apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel. Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière au fait d'armes héroïques, honoré par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père. Et c'est dans le rôle de Mulan, on a une charmante comédienne, qui, bon voilà, elle est très belle, elle est pleine de talent, qui s'appelle Yifei Liu, qui est connue, elle est connue chez elle, bien sûr. Et puis on a Donnie Yen, alors Donnie Yen, on va en reparler d'ailleurs de lui après, là. On va en reparler de cet acteur pour un autre film. On a Jason Scott Lee, on a Jet Li. Alors Jet Li, lui, c'est l'empereur, il joue l'empereur. Et donc, c'est très beau, c'est vraiment, ça vaut la peine. Il dure combien celui-là ? 1h55, bon, ça va. Ça, c'est à partir de 10 ans, c'est tout à fait raisonnable. Alors, c'est, en fait, le scénario est basé sur un poème narratif chinois datant du 4e siècle, qui s'appelait d'ailleurs, qui s'intitule « La balade de Mulan ». Le texte est à l'origine de la légende de cette héroïne partie à la guerre à la place de son père, sans que personne ne sache, avant son retour, qu'elle est une femme. C'est quand même une histoire assez exceptionnelle, hein. Il n'y a pas d'ordinaire dans cette histoire-là. Et en fait, c'est Mulan, la version 2020, c'est le remake en prise de vue réelle du dessin animé du même nom qui est sorti en 1998, qui était lui-même inspiré du poème également. Alors, le long métrage, pour parler de chiffres, il a rapporté pas moins de 304 millions de dollars, quand même. Là, je parle du dessin animé, hein, qui a rapporté quand même de recettes mondiales. Donc, c'est quand même... Et ça a même donné une suite. Le dessin animé a donné une suite qui s'intitule Mulan 2, la mission de l'empereur, qui est sortie directement en vidéo en 2004. Direct. Ah bon, bizarre hein, qu'il n'ait pas, parce qu'il a rapporté beaucoup d'argent, je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas sorti dans les cinémas. Bon. Alors, Nikki Caro, elle avait été envisagée pour diriger Captain Marvel, et elle a été choisie par Disney pour mettre en scène Mulan. Elle a été révélée par Pai, on lui doit également l'affaire José Helms. Alors, l'affaire José Helms, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a deux enfants et qui n'a qu'une possibilité de travail, c'est la mine. Mais comme dans le Minnesota, hein, mais comme il n'y a que des hommes mineurs, évidemment, elle va tomber sur des fortes têtes qui vont l'ennuyer terriblement, ça va devenir intolérable, et elle va porter l'affaire devant la justice, ce qui ne s'était jamais fait dans ce monde-là, dans ce milieu de mineurs. Et donc, et Charlize Theron, qui avait le rôle principal, avait donc, doit à ce film sa seconde nomination aux Oscars en 2006. Un très, très beau film, hein, vraiment. Et Pai, c'est quoi Pai? Ben, ça se passe chez les Maoris. Et Pai, c'est une petite fille, c'est la petite fille du chef, Koro, qui est l'élu d'un peuple nouveau. C'était sorti en 2003, très beau aussi, comme film. Donc, Nikki Caro connaît bien son affaire quand même. Hein. Elle est vraiment... Pour que Disney fasse appel à elle comme ça constamment, c'est que quand même, elle est quand même assez douée. Parce que Disney, lui, ce qu'il voit surtout, c'est tout ce qui peut marcher et rapporter, en fait. Hein. Donc, si elle fait de belles choses, ça se passe bien, il y a beaucoup de spectateurs et ça rapporte beaucoup d'argent pour pouvoir refaire un film après. Alors, l'actrice principale, là, Yifei Liu, on l'avait vue aussi dans Le Royaume, aux côtés de Jackie Chan et Jet Li. Si vous avez vu ce film, Le Royaume, bon, bah, pareil, elle est vraiment très douée. Et elle est tout à fait... Elle est faite pour ce genre de rôle, en fait. Hein. On la voit aussi... On l'avait aussi dans Ip Man 3. Donc, elle avait été choisie par Disney également, voilà. Donc, cette actrice qui est chinoise, hein, elle possède une formation en danse et en chant, ce qui explique sa façon de se remuer, de bouger, de ses mouvements dans l'espace qui sont d'une grâce infinie. Ça explique la formation qu'elle a eue. Voilà. En fait, elle s'est retrouvée au milieu d'une polémique il y a pas longtemps. Elle avait l'actrice là, Yifei Liu. Elle avait posté un message controversé sur le réseau social Weibo. Elle avait relayé une image du quotidien du peuple, le journal du Parti communiste chinois, qui indique « Je soutiens la police de Hong Kong, vous pouvez me frapper maintenant, quelle honte pour Hong Kong ». Et les internautes étaient très en colère, ils se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, et ils ont appelé au boycott de Mulan. Mais bon, ça ne va pas marcher. De toute façon, Mulan étant été retardée de plusieurs mois, je pense que ça va bien se passer pour le film. Ce serait dommage pour Nicky Caro quand même. Voilà, Mulan. Eh ouais. Vous pouvez y aller tous. Vous emmenez les enfants à partir de 10 ans et vous y allez tous en famille. Et peut-être, je sens que Damien a peut-être une bande-annonce, non ? Oui.
C'est son ange gardien, son protecteur. Il est à la fois beau et fort. Ton devoir est d'honorer ta famille. Penses-tu en être capable ?
Citoyens, nous subissons l'offensive des envahisseurs du Nord.
Leur chef se nomme Borikan.
Il combat aux côtés d'une sorcière.
Tuez-les tous. Par décision de son impériale majesté, un homme de chaque famille devra se dévouer pour combattre.
N'as-tu pas de fils ?
La Providence m'a donné 2 filles. Je combattrai.
Nous devons être fortes. Il ne reviendra pas cette fois.
Loyauté. Courage. Sincérité. Il est de mon devoir de protéger ma famille.
Ancêtre vénéré, protégez-la, je vous en supplie.
Ton nom, soldat ?
Roi Jun, commandant, fils de Roi Zhou.
Nous ferons de vous des hommes, de vous tous, de vrais hommes.
Le courage est évident, mais quelque chose te retient.
Quand ils découvriront qui tu es, ils n'auront aucune pitié pour toi.
Je suis roi Mulan. Je nous comblerai d'honneur.
Et voilà la bande-annonce de Mulan, film qui vient de sortir chez Disney.
Qui était prévu en mars, donc mieux vaut tard que jamais, la grande héroïne chinoise. Ensuite, j'ai mis de côté c'est comédie, c'est science-fiction. Alors le titre est je crois que c'est d'espagnol, Tiempo d'Espèces. Tiempo d'espèce, ça veut dire en fait le temps plus tard, le temps à venir, en fait, si on traduit un peu. C'est de José Luis Garda, qui est un réalisateur scénariste espagnol. Alors lui, il est décédé le 4 février 2020. Ah ouais, à 72 ans, il y avait un souci de santé très brutal. Il avait eu des prix, des nominations. Alors c'est un film étrange, sympathique. Il y a beaucoup d'humour aussi. C'est quoi ? Ça se passe en 9000. Oui, j'allais me tromper parce que ça paraît énorme. En 9177. C'est ça le temps à venir. Le monde entier se retrouve réduit à un seul bâtiment officiel dans lequel vit l'établissement. Et des banlieues. Alors, il y a ce bâtiment. Et puis, il y a des banlieues crasseuses habitées par tous les chômeurs et les affamés du cosmos. Parmi tous ces misérables, José Maria décide de prouver qu'en faisant face et en vendant une délicieuse limonade de sa fabrication dans le bâtiment officiel, un autre monde est possible. Ça fait un petit peu froid dans le dos quand même, cette image. Bon, l'image du bâtiment officiel et puis des banlieues crasseuses. Alors, on a dans les rôles principaux, on a Roberto Alamo, c'est lui, José Maria, qui espère et qui compte sur cette délicieuse limonade. On a Blanca Suarez, on a Miguel Roland, César Saraki dans les rôles donc principaux. Alors, c'est titré, on dirait du jamais vu, mais c'est la fin du monde. Un film monumental de José Luis Guerra. En fait, à mille ans près, il ne faut pas se tromper. C'est ce qui est marqué quand même. Hein. Vous vous souvenez de l'émoi général, le jour où toutes les valeurs traditionnelles de la gauche tombèrent dans l'oubli à cause d'un dérèglement idéologique stérilisateur et d'un praxi politique, d'un pragmatisme insultant. Ça, ce sont des extraits de dialogue qui donnent une petite idée de ce qu'est ce film, justement, qui est une grosse curiosité, finalement, mais sympathique, hein, c'est très sympathique. On rit aussi. Ça dure 1h35. Comédie science-fiction espagnole. Tiempo d'espèche. D'espèche, pense qu'on dit comme ça, je crois, le S. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Tiempo d'espèche, hein, je crois que c'est ça, non? La prononciation, oui? Non, je ne sais pas. Alors, on continue.
Oui?
Oui, je te demandais si tu trouvais que la prononciation était correcte. Tiempo d'espèche. Je crois qu'on dit d'espèche quand c'est un ES au bout. On le prononce un peu CH, je crois. Hein.
Non.
Non, pas du tout.
Ou en Argentine.
Vas-y, non, c'est espagnol, là.
Oui, tiempo d'espèche.
Bon, alors tiempo d'espèche. Le temps à venir, enfin dans le temps à venir comme c'est en l'an...
D'après, oui.
Oui, parce que c'est le temps, c'est en 9000, en l'an 9177, donc c'est un film sympa. Si vous aimez les films pas très ordinaires, quoi, qui sortent un peu du lot, bah, celui-là vaut la peine quand même. Le casting est parfait parce qu'ils sont parfaits là-dedans. Et puis, oh, j'ai mis sous le coup d'une comédie française et belge. Le titre est très joli, ça s'appelle Adorable, au pluriel. C'est de Solange Sicurel. Alors, Solange Sicurel, c'est une réalisatrice scénariste belge. Elle est connue chez elle parce qu'elle est dans la cour des comédies, en fait, hein, quand même. Elle est connue et appréciée. Ben, les Belges aiment s'amuser, ils aiment rire, ils aiment la comédie. Ils ont raison, en plus. Et on lui doit, par exemple, en 2017, « Faut pas lui dire ». Mais on en avait parlé ici à l'antenne, « Faut pas lui dire ». C'était une comédie romantique qui était tournée d'ailleurs à Bruxelles, où il y avait quatre cousines qui mentaient, qui décident de mentir pour ne pas dire à une d'entre elles qu'elles ont vu son fiancé à la veille du mariage avec une autre fille. Alors faut-il lui dire ? Et elles décident qu'elles vont mentir. C'était très... Il y avait Jennifer Bartoli, d'ailleurs, la chanteuse qui était dans les rôles. Camille Chamou. Il y avait Arié Elmaleh, Brigitte Fossé. Enfin, c'était un très beau casting. Je me souviens qu'on en avait parlé. Ça doit être, d'ailleurs, dans les podcasts de 2017. Il ne faut pas lui dire. Et là, on est dans Adorable. Alors, c'est quoi Adorable? C'est Emma et Victor qui sont les parents de Lila. Alors qu'elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d'ado... Ah oui, la fameuse crise d'ado, hein, les adolescents. Eh oui, tout le monde y passe. Et elle devient, en fait, elle était une enfant parfaite. Elle devient une adolescente insupportable. Voilà, elle passe d'un statut à l'autre, de la perfection à l'insupportable. Victor, son père, tente d'apaiser les tensions, mais entre mère et fille, la guerre est déclarée. Tous les coups sont permis et plus question d'être adorable. Point d'exclamation. Alors, on a qui? Alors, dans le rôle des parents, on a Elsa Zilberstein. On la connaît, Elsa Zilberstein, il n'y a pas de problème. On a Lucien Jean-Baptiste, qui joue le papa. On a Yoni... Ah oui, alors Lila, c'est Yoni Matos, qui est tout à fait adorable, d'ailleurs, à l'âge du rôle. On a Max Boublil. On a Hélène Vincent, Stéphanie Crayoncourt. On a Laurent Soltuski, Tania Gabarski. En fait, si on a un peu l'habitude quand même, on les reconnaît tous, même si on ne connaît pas tous les noms, mais on les reconnaît quand on les voit, sans problème. C'est un joli casting. Hein. Alors c'est drôle, c'est agréable. Et puis écoutez mes chéris, si vous avez une ado chez vous, ou un ado, ben, allez, un petit peu compliqué, allez voir le film, vous aurez peut-être des solutions. Peut-être. Parce que le film est pour vous, hein. Il n'y a pas de problème. Mais tout le monde, tous les parents sont passés, sont passés à ce stade-là, dans ce stade d'adolescence. Des petits mignons qui deviennent des vilains. Ça dure 1h40, mais ça ne dure pas longtemps l'adolescence. Eh ben non. Après, ils redeviennent raisonnables. Adorables. Je ne sais pas si, Damien, on a une bande-annonce peut-être bien.
J'ai une bande-annonce que l'on écoute tout de suite.
Merci.
Attendez, on va l'écouter dans quelques secondes. Et j'en profite pour vous dire que ce film sort partout en France et également dans votre cinéma Rex, votre cinéma de proximité.
Non, je vois rien de suspect.
Ah bon? C'est sûr?
Vous avez des enfants?
Bah oui, j'ai une fille de 14 ans.
Non, bah oui.
Quoi?
C'est ce que je craignais.
Vous êtes allergique à votre fille.
Vous êtes sûr, c'est pas des poux?
Allergique.
Ah non, non, c'est pas des poux.
Je vous souhaite que l'adolescence ne soit pas héréditaire.
Merci. Oh.
Mais Lila, qu'est-ce que tu fous? Tu vas être en retard à l'école.
J'y vais pas, je fais grève.
J'irai à l'école si tu me laisses sortir vendredi soir.
Je reste zen.
Alors bonne journée, Lila.
Attends, t'es bien sortie, toi.
Bah oui, mais c'est pas une raison.
Maman, c'est ma vie qui en dépend. Et tu sais que je suis raisonnable et que tu peux me faire confiance.
Surprise. J'ai 14 ans avant toi, tu montes.
Si j'étais toi, je serais vigilante.
Une ado en colère peut être imprévisible.
Tu sors?
Ouais.
Avec qui? Tu rentres à quelle heure?
Tu te fous de ma gueule, là?
On parle de ta fille ou on danse d'abord?
De merde, de gosse gâté pourri.
C'est ton nouveau téléphone.
Tiens,
il n'est pas tactile. Faut appuyer sur les touches.
C'est quoi ça?
J'en sais rien. Tout est sous contrôle. Y'a pas de problème, je gère.
Mais qu'est-ce que j'ai foiré?
Je m'étais juré d'être différente de toi, maman, de faire autrement. Mais regarde-moi!
Jusqu'à quel âge il reste ado? Parce que moi, j'en peux plus.
Vous savez, moi aussi, j'ai une adolescente à la maison.
J'ai beaucoup de chance, ça se passe extrêmement bien.
Tout va bien ici?
Oh oui.
C'est pas ce que votre fille nous a dit.
Quoi?
Tu veux pas qu'il apprenne chez moi,
hein? Ah non! Je me la garde!
Voilà, adorable, donc, à retrouver cet après-midi au cinéma Rex de la Révolte.
Ah, très bien,
ça
très
sera
bien.
À 15h, tout simplement.
Ah, parfait! Oh, alors, moi, je laisse l'émission et puis j'y vais, hein! Non, je plaisantais. Non, mais les parents, là, Elsa Zilberstein et Lucien Jean-Baptiste, sont épatants hein, dans ce film. C'est très drôle, c'est pas... Bon, ça va pas être le film du siècle, mais ça va vous détendre, mes chéris. C'est drôle, c'est bien joué, il y a une jolie mise en scène. Non, c'est vraiment... ça vaut la peine, là, ça fait du bien, voilà. Puis tout le monde peut y aller, là. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de contre-indication. Alors ensuite, j'ai un film d'action, d'arts martiaux, il y a du drame, et c'est biopic également, c'est hongkongais et chinois. Et ça s'appelle, alors là, bon, il y a beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent parce qu'ils ont dû voir les trois premiers, ça s'appelle Ip Man 4, le dernier combat. Et ça veut dire qu'il y en avait trois avant, on est bien d'accord, hein, puisque c'est le quatrième. C'est alors IP en fait IP ça veut dire en fait en chinois c'est Yip, c'est la même chose quoi, c'est IP c'est le chinois simplifié de Yip, hein, grec IP, c'est voilà, bon, c'est parce que quelquefois on peut se demander ce que c'est IP, bah c'est
et,
ça.
Et alors Yip ça veut dire quoi?
Bah c'est le prénom.
Ah oui,
c'est,
okay.
C'est un prénom d'ailleurs, un prénom ou un nom d'ailleurs, c'est comme on veut. Parce que le réalisateur, comme par hasard, s'appelle Wilson Yip, précisément. Il est acteur, réalisateur, scénariste chinois. Il a 56 ans, il a déjà eu des nominations. Et donc, son film qui suit les trois autres, c'est quoi? Ben, en fait, les trois autres, c'était à peu près dans les... Bon, les histoires sont toujours à peu près les mêmes. Hein. Alors, c'est dans le dernier opus donc, de la saga mythique, hein, Ip Man... ce Ip Man-là, le Ip Man 4, se rend aux États-Unis à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-Fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combat ultra maîtrisé, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, l'acteur Donnie Yen, dont on a parlé justement tout à l'heure, puisqu'il est dans Mulan, hein, et je disais qu'on allait parler de lui justement.
Eh bien, le voilà de retour.
Le voilà de retour. Et l'acteur Donnie Yen donc donne vie pour la première fois sur grand écran en France au légendaire maître chinois de Wing Chun. Ben c'est quoi le Wing Chun ? T'allais me demander, Damien, je suis sûre que tu me posais la question.
Oui,
là.
Tout à hein fait, c'est quoi le Wing Chun ?
Je le sentais, c'est quoi ? Ben c'est un art martial chinois traditionnel, originaire du sud de la Chine, destiné au combat rapproché, incluant des techniques à main nue et le maniement d'armes. Ça rigole pas le Wing Chun. Hein. Il faut quand même des gens qui connaissent. Hein. Alors en fait, on pense que la créatrice de Wing Chun aurait vécu il y a très longtemps, puisqu'elle est née en 1623. Elle s'appelait N.J. Mui et c'était une nonne bouddhiste. Elle est semi-légendaire, puisque c'est le XVIIe siècle. Et c'est elle qui aurait créé la boxe chinoise Wing Chun. Mais on est sûr de rien, mais elle est quand même un peu légendaire, cette femme. Alors, les pratiquants renommés, il y a des pratiquants vraiment qui sont très connus par les amateurs, hein, évidemment, hein, de ce sport. Il y a Ip Man, donc, il y a Bruce Lee, il y a Ip Chun, il y a William Chung, il y a Lo Man Kam, il y a Leung Ting et Wang Ching Leung, qui sont vraiment très connus par les connaisseurs, les amateurs de ce sport. Moi, je ne les connaissais pas, bien sûr, parce que je ne connais rien du tout, mais je me suis bien renseignée et j'ai trouvé que c'était quand même plutôt intéressant et que c'est assez... Bon, c'est un peu... Il y a des moments quand même un peu durs, hein, mais c'est quand même pas désagréable à regarder, en fait, quand c'est pratiqué par des gens qui connaissent absolument et qui sont d'une adresse et d'une grâce infinie, comme Donnie Yen, qui lui ne donne pas de coups violents. Hein. Il est toujours, lui, dans la grâce et dans le mouvement, mais ce n'est pas un violent, le personnage. Donc ça, c'est important quand même de le souligner. Et donc, le Ip Man 4, là, il est sorti le 20 décembre 2019 en Chine, dans les salles chinoises, eh oui. Et donc c'est quand même il met toujours en scène dans le grand maître Wing Chun du même nom et qui fut le professeur de Bruce Lee. Pour ceux qui connaissent Bruce Lee, on le connaît quand même Bruce Lee. Bah c'était son maître. C'est lui qui a fait de Bruce Lee ce qu'il est devenu. Et puis là, bon, il est toujours incarné en fait dans les quatre films. Il est toujours incarné par Donnie Yen, hein. Voilà. Donc, il faut savoir que le film a ramassé, en l'espace de 3 jours, 43 millions de dollars, quand même, là-bas. Un chiffre très nettement au-dessus de Star Wars 9. Eh oui, qui n'aurait rapporté que 12 millions de dollars. Ah oui, c'est nettement au-dessus, là. Ah oui, c'est quand même... Alors donc, je disais, Donnie Yen endosse le costume de Ip Man pour la quatrième fois. Voilà. C'est quand même assez... c'est spectaculaire. C'est vrai que Donnie Yen a un charme fou là-dedans, dans ses mouvements. Ben, le premier Ip Man, c'était en 2008, pour ceux qui les ont vus, peut-être. Le Ip Man 2, c'était en 2010. Le Ip Man 3, c'était 2015. Et le Ip Man 4, là, 2019, normalement, qui sort maintenant chez nous en France. Alors, c'est quand même, en 2010, c'était le même réalisateur, Wilson Yip, celui qu'on a là pour le 4. Voilà. C'est quand même... mais ce sont aussi, en fait, ce sont presque des danseurs, hein, des chorégraphes, quoi, des gens. C'est pour ça que c'est joli à regarder, avec Donnie Yen, qui vraiment fait ça très, très bien. Il a une maîtrise extraordinaire, ça se sent. On le voit, quoi, c'est sûr. Il fait très serein tout le temps. Il a toujours un visage très serein quand il se bat, là, quand il combat. C'est assez extraordinaire. Voilà, ça dure 1h45. Pour les amateurs, n'hésitez pas, mes chéris. Hein, là, si vous aimez, bon, il faut aller le voir, hein, celui-là aussi. Ah ouais. De toute façon, ça marche bien en Chine. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous.
Et on écoute la bande-annonce.
Merci.
Il est temps d'accueillir Monsieur Bruce Lee.
Bruce veut permettre aux arts martiaux chinois de se démocratiser.
Vous êtes en terre étrangère, monsieur. Croyez-moi, si vous viviez ici, vous comprendriez. Dans le quartier chinois de San Francisco, nos studios de kung-fu ne devraient accepter que les élèves chinois. Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas comprendre. Maître Ip Man.
Parce que ce pays est le plus grand et le plus puissant du monde. Ça rentre dans vos têtes.
Oui, c'est clairement de la provocation.
Et c'est tout. C'est ça, votre kung-fu chinois.
Que s'est-il passé? Face à l'injustice, je ne peux pas ne rien faire.
Aucune règle. On se bat jusqu'au chaos.
Donc, vous êtes enseignant, vous aussi?
J'enseigne le kung-fu chinois.
C'est de la gymnastique?
Yeah. Oui, en quelque sorte.
Voilà Ip Man 4, le dernier combat.
Ouais, chouette, chouette quand même. Hein. Pour les amateurs, ce sont de beaux films. Vraiment, c'est pas de la série, hein. C'est vraiment de beaux films. Alors, alors j'ai une comédie israélienne qui revient encore parce que c'est pareil, elle devait sortir le 25 mars. Elle arrive là, donc le 22 juillet. C'est Né à Jérusalem et entre parenthèses, est toujours vivant. C'est ça le titre. C'est une comédie donc enfin c'est une co-réalisation. Il y a Yossi Atia, qui est un acteur-réalisateur vidéaste israélien, il a 41 ans lui, et David Opek, qui est un réalisateur israélien de 52 ans. Ils ont fait un petit truc assez sympa, c'est drôle aussi. Ben, c'est quoi? Alors c'est Ronan, ou Ronen, je sais pas, c'est Ronan, qui vit dans le cœur du quartier touristique de Jérusalem et qui invente une nouvelle forme de visite guidée, de point, le tour des attentats de ces dernières années. Voilà. Il a inventé ça, lui. Un soir, voilà, il s'est dit, oh, je sais ce que je vais faire, Ronan, et puis voilà. Donc, dans le rôle, on a Yossi Atia, c'est-à-dire un des deux réalisateurs qui joue le rôle de Ronan. On a Lee Kormovsky, qui est une actrice israélienne. On a Itamar Rose, acteur israélien. Et on a un acteur japonais, Taishi Tanaka, dans ce film. Alors voilà, c'est quand même... On en avait déjà parlé, hein, ça dure 1h32. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé plusieurs fois, mais non, non, non. J'avais juste redonné le titre quand j'avais redonné tous les films, tous les titres de films qui devaient ressortir à partir de juillet. Juin aussi, d'ailleurs. Et donc, il en faisait partie. Et finalement, il a été repoussé, lui, jusqu'à fin juillet, quoi. 22 juillet. Né à Jérusalem et toujours vivant. Le titre est quand même donne une idée hein, de l'humour qu'il y a dans ce film. C'est quand même le personnage est très sympathique en fait. Il y a aussi Atia là qui joue le rôle et il rend le personnage agréable. On a envie de le suivre quand même, bien que son idée soit quand même un petit peu spéciale. Oui, pour des visites. Et ensuite j'ai mis de côté un drame, thriller espagnol et français, très très beau film, qui s'intitule Madre, la mère quoi, Madre. Alors Madre, c'est de Rodrigo Sorogoyen, qui est un réalisateur, scénariste, producteur espagnol. Il a 38 ans, il a déjà eu 6 prix et 12 nominations, et on dit de lui qu'il est le nouveau maître du thriller espagnol. Alors Madre, c'est quoi? C'est un thriller sur la maternité, en fait. Hein. Alors c'est Rodrigo Sorogoyen, lui, il a déjà... C'est écrit comme ça, hein. Il a déjà, il nous a déjà donné deux chefs-d'œuvre, parce que pour tous, là, pour les critiques, Madre est un chef-d'œuvre. Donc les deux autres chefs-d'œuvre, c'était Que Dios nos perdone, c'est sorti en 2016, c'est au moment où Madrid reçoit la visite de Benoît XVI, ouais, c'était Benoît XVI, deux policiers, l'un violent et direct en difficulté avec ses supérieurs, et l'autre, cérébral, méticuleux, bègue et mal à l'aise dans sa vie, vont rechercher un criminel et vont finir par se rapprocher. Ça, c'était le premier. Et le deuxième chef-d'œuvre, El Reno, qui est sorti en 2018, mais je me demande si on n'avait pas parlé de celui-là, El Reno, en 2018, si c'est possible. C'est l'histoire d'un homme politique. Mais oui, mais si. Oui, on en avait parlé. C'est un homme politique qui voit sa réputation touchée par une affaire de corruption et qui plonge pour s'en sortir dans une spirale infernale. Oui. Je me souviens aussi, ça doit être dans les podcasts de 2018. El Reno. Donc, considéré comme deux chefs-d'œuvre, et le troisième serait Madre. 10 ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 10 ans depuis ce coup de téléphone où, seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu'il ne trouvait pas son père. Aujourd'hui, Elena y vit, elle y travaille, dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu'à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu. Alors dans les rôles, on a Marta Nieto dans le rôle d'Elena, c'est une actrice espagnole. Elle est magnifique dans son rôle là, extraordinaire. On a dans les autres rôles principaux, on a Jules Poirier. Jules Poirier, c'est celui qui joue justement qui joue Jean, qui joue celui qu'elle va rencontrer et qui ressemble à son fils disparu. On a Frédéric Pierrot aussi dans le film, un très très bon comédien. On a Anne Consigny, ah magnifique Anne Consigny. Anne Consigny, inoubliable si vous connaissez le film dans Je ne suis pas là pour être aimée, de Stéphane Brisé avec Patrick Chenet et George Wilson dans son dernier rôle d'ailleurs. Elle a frôlé le César de la meilleure actrice pour ce film. Je ne suis pas là pour être aimée. Il est sorti en DVD, mes chéris, si vous intéresse. Ça fait un petit moment, on le trouve pas cher du tout. Et puis on a aussi Alex Brindemühl, alors qui fait lui, qui est un acteur espagnol, hein, qui est en plus d'être acteur, il est réalisateur, scénariste, etc. Hein, Alex Brindemühl, assez formidable comme comédien aussi. Ouais. Et bon, voilà, C'est adapté en fait du court-métrage du même nom qui a été sélectionné dans de nombreux festivals et nommé aux Oscars. Voilà. Alors conscient que ce court-métrage ferait une grande scène d'ouverture de long-métrage et désireux de retrouver le personnage d'Elena, Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur, a voulu poursuivre son histoire dans Madre. Il nous dit « On a mis tant d'efforts à raconter la tragédie d'Elena que les principaux responsables, la productrice et l'actrice, Marta Nieto et moi-même avons toujours pensé qu'on devait quelque chose à cette histoire et à ce personnage. » Le film ne raconte pas ce qui se passe immédiatement après le court-métrage, mais se situe 10 ans après. Ça, c'est pour ceux qui ont vu éventuellement le court-métrage. En fait, c'est un thriller, comme les deux précédents longs-métrages dont je viens de parler, de Rodrigo Sorogoyen. Et en fait, là, avec Madre, il change de registre. Il nous dit, le premier grand handicap se présentait à nous. Comment satisfaire un spectateur qui voit ce court-métrage et à qui nous n'offrons pas ce qu'il attend, la résolution de cette aventure. En lui offrant mieux, le défi était donc double. Après avoir passé 5 ans à travailler sur 2 thrillers d'assez grande envergure, nous avions tous les deux le désir de revenir à une histoire intime de personnage. Tous les deux, ils parlent aussi du scénariste. Quand on évoque l'histoire du personnage d'Elena, on parlait d'elle, nous dit-il, comme si elle était folle. Grave erreur. La dire folle nous éloignait de son personnage et risquait d'éloigner le spectateur. Donc le personnage, elle n'est pas folle. Hein. Elle n'est pas folle. Il faut partir avec cette idée, aller voir le film en se disant que ce n'est pas du tout un personnage, c'est pas une cinglée, là, qui est dans le rôle principal. Pas du tout. Oh là là, c'est pas ça du tout. Il insiste beaucoup là-dessus. Ça dure 2h09. C'est absolument magnifique. Très beau film. Si vous aimez le grand cinéma, qui est frôlé chef-d'œuvre, ben il est pour vous, celui-là, hein, Madré.
Et Madré, vous pouvez aller le voir à l'Aréole ce jeudi 20 à 21h.
Parfait, parfait. Ah oui, alors là, ouh, moi je vais y aller. Ah oui, parce que je veux le voir en entier. Ce que j'ai vu ne m'a pas suffi. Ah oui, très bien. Tu répètes, s'il te plaît, le...
Madré à l'Aréole ce jeudi à 21h.
Et tu veux bien nous redonner aussi ce que tu nous as dit pour l'Aréole tout à l'heure.
Avec c'est... Adorable cet après-midi à 15h.
D'accord, très bien.
Notamment, ça c'est sur les films qui sortent cette semaine.
Oui, Adorable aujourd'hui et puis les autres, d'autres, il y a certainement d'autres sorties d'Adorable à l'Aréole chez notre partenaire, le Rex. Et puis, j'ai aussi là une comédie, un drame, un biopic, c'est américain. C'est The King of Staten Island. Alors, c'est un film de... Oui, j'ai un peu de mal avec le titre parce qu'il est très long. The King of Staten Island. C'est de Jude Apatow, qui est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 52 ans, il a déjà eu pas mal de nominations. Oh oui, 8 ou 10 à son actif quand même. Alors c'est quoi ça, ce film ? Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son père, pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd'hui 24 et il entretient le doux rêve d'ouvrir un restaurant salon de tatouage, alors que sa jeune sœur Claire, sociable et bonne élève, part étudier à l'université. Scott, lui, vit toujours au crochet de sa mère, infirmière, Margie, et il passe le plus clair de son temps à fumer de l'herbe, à traîner avec ses potes, Oscar, Igor et Richie, et à coucher en cachette avec son amie d'enfance, Kelsey. Mais quand, après 17 ans de veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va voir sa vie chamboulée et ses angoisses exacerbées. L'adolescent attardé qu'il est resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil de son père. Et oui, c'est comédie-drame, hein, il y a les deux hein, dedans, hein, c'est ce que j'ai dit au début. On a Pete Davidson dans le rôle de Scott, acteur américain. On a Margie, alors Margie c'est Marisa Tomei. On a Bill Burr et on a Maud Apatow qui joue le rôle de Claire. Alors Maud Apatow c'est la fille du réalisateur, hein, dont j'ai dit le nom tout à l'heure, Jude Apatow. Donc, il a lancé sa fille dans ce film. Alors, c'est quoi ça, The King of Staten Island, ça s'inspire de la vie de son acteur principal, Pete Davidson, dont le père est décédé lors des interventions au World Trade Center, à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Ah oui, et oui, le film est une version romancée d'événements autobiographiques. On s'est dit, nous dit le réalisateur, que l'histoire pouvait être complètement fictive, mais que les émotions et quelques événements déterminants de la vie de Pete se devaient d'être vrais. Avant de tourner sous la direction de Jude Apatow, Pete Davidson avait déjà imaginé avec son ami humoriste et auteur Dave Cyrus un scénario tiré de sa vie. Mais aucun d'entre eux n'avait jamais été écrit pour le cinéma. Voilà, c'est fait. C'est chose faite. Il nous dit que Jude, c'est-à-dire le réalisateur, a donné au scénario sa trajectoire. Voilà, il nous a montré qu'une comédie demandait autant de structure narrative qu'un drame ou un thriller. Voilà ce qu'il dit du réalisateur. Staten Island, c'est l'un des 5 arrondissements de New York. Pour situer quand même. Hein. Alors, il y a Manhattan, il y a Brooklyn, il y a Queens et le Bronx. Alors, en fait, Staten Island, c'est constitué d'une île principale et il y a quelques autres îles situées au sud-ouest de la ville. Alors, ce cinquième arrondissement, Staten Island, est relié à Manhattan par un ferry à Brooklyn et au New Jersey également par 4 ponts. Il est aussi l'arrondissement le moins urbain et le moins peuplé de New York, ainsi que le plus blanc et le plus conservateur. Rarement montré au cinéma, il semblait essentiel que les créateurs du film en capturent l'essence et lui rendent justice. Voilà. Il y a quelque chose de simple et d'honorable chez les habitants de Staten Island. C'est un lieu d'un autre âge, agréablement hors du temps. Les gens y vivent à l'écart de la frénésie du monde moderne. Ils sont généralement bien dans leur vie qu'ils ne cherchent pas à rendre trop compliquée. Voilà, on sait tout. On sait tout sur ce 5e arrondissement Staten Island, où se situe le film et d'où l'histoire est partie. Ce biopic, cette histoire vraie. Voilà. Donc, c'est, ça dure, je l'ai dit, je crois, non ? 2h17, je ne sais pas si je l'avais dit. Ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine. Hein. Eh oui, c'est une histoire... Ah oui, le père pompier meurt... c'est une date terrible, ça. Le 11 novembre, C'est quand même... c'est une drôle d'histoire. Si vous avez suivi un peu le World Trade Center. Si vous avez suivi un peu son histoire, ben voilà, son père, le père du héros, là, faisait partie des pompiers qui sont morts en essayant d'éteindre cette horreur. Voilà. Ensuite, ben oui, ça m'a un peu, voilà, j'étais un peu sous le coup de l'émotion parce que ça nous rappelle quand même des heures terribles là. Qu'on a vécu un peu comme si c'était chez nous, en fait. Hein. Quand c'est horrible comme ça, on a l'impression d'en faire partie, quand même. Hein. Forcément. Puis, ah oui, j'ai un drame historique aussi. Il ne faut pas que je l'oublie. Le drame historique albanais, français, grec. Ça s'appelle Le Dernier Prisonnier. Ah oui, un film étrange aussi, avec des acteurs extraordinaires. On va voir. Le réalisateur s'appelle Boujar Alimani. C'est un réalisateur, acteur, producteur albanais. Il a 51 ans. Il a eu pas mal de nominations déjà. D'ailleurs, son film, Le Dernier Prisonnier, est présenté dans de nombreux festivals et ça se passe très, très bien pour lui, en fait. C'est depuis 2018-2019 hein, qu'il se balade dans les festivals. Alors, ça se passe en 1990 dans une région reculée de l'Albanie. Un prisonnier politique est transféré du jour au lendemain, sans savoir ni où ni pourquoi. La voiture qui le transporte tombe en panne au cœur de la montagne. Le prisonnier fait connaissance avec ses deux gardes, responsables dévoués au Parti communiste albanais. Grand point de suspension, là. Parce que, alors, les acteurs sont insensés, là. Ils sont formidables, les trois, là. Alors, le prisonnier, lui, c'est... Alors, attention pour la prononciation, parce qu'il est albanais et le prénom est très compliqué. Alors, je dirais Vetdet, et son nom est beaucoup plus simple, Ferry. Alors, il a un prénom, écoutez, je vais vous l'appeler parce que c'est quand même un truc à... Il faut répéter là-dessus, c'est un X-H-E-V-D-E-T. Il faut le prononcer quand même, ce prénom-là. Donc, c'est l'acteur Ferry, on est d'accord. Ensuite, on a Victor Zusti, qui est un acteur gréco-albanais. Et on a un acteur allemand aussi, Richard Samel. Alors, Richard Samel... Si on a l'habitude un peu d'aller voir des films qui se passaient sous l'occupation, on l'a vu dans énormément de films. Il jouait le rôle d'un officier allemand, pas rigolo d'ailleurs. Il a jamais eu de rôle très rigolo dans ces films-là. Hein. Et on le reconnaît aussitôt. Il a un visage qu'on reconnaît. C'est comme ça, Richard Samel, avec des yeux bleus incroyables. Et un visage un peu dur quand même, hein, comme il est d'ailleurs dans ses films comme officier allemand. Bon, ben là, il est pas plus drôle, hein, effectivement. Mais celui-là, on le connaît. Et en fait, on nous dit aussi que dans la scène où Richard Samel, justement lui, là, alias M. Léorine dans le film, prend le thé, il parle français. Ses interlocuteurs ne parlent en réalité pas un mot de français. On nous dit ce qui révèle le fabuleux jeu d'acteur dans cette scène. Eh oui, pas facile hein, de parler une langue en face d'interlocuteurs qui sont censés parler la même langue, alors qu'en fait, ils ne savent pas du tout. Là, il faut de nombreuses années de d'acteurs derrière. Ou alors, il faut vraiment être très doué, il faut être un acteur très doué pour que ça passe bien et que ça fasse naturel. Le dernier prisonnier. Alors, c'est une histoire un peu complexe. À un moment donné, on ne sait pas si la panne est prévue, en fait, si ça a été fait exprès pour que les deux gardes le fassent parler. Fassent parler le dernier prisonnier, là, le prisonnier. Parce qu'en fait, il sait des choses, apparemment, qu'il n'a jamais dites. C'est pour ça qu'il est prisonnier, d'ailleurs. Et là, à un moment donné, on ne sait pas si la panne n'est pas faite exprès pour le faire parler, pour se lier un peu avec lui. Hein, ils vont être un peu sympas comme ça, pour le faire parler. Et lui, il a des doutes. Il a des doutes. Et c'est pour ça que c'est un film à voir vraiment. Ça dure 1h35. C'est très chouette, Le Dernier Prisonnier. Il passe pas à l'aréole, celui-là. Non, tu nous l'aurais dit. Mais ça va peut-être venir. Ils vont peut-être le mettre. On ne sait pas. Et puis, ah oui, j'ai un thriller allemand également, de Christian Alvar, qui est connu là-bas en Allemagne, lui, comme réalisateur, scénariste, producteur de 46 ans. Ça s'appelle Lands of Murders. Oui, c'est quand même... Alors, il y a un avertissement, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est à noter tout de suite, quand même. Dans une région reculée de l'Allemagne, tout juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L'un a des méthodes modernes d'investigation, tandis que l'autre n'hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes. Leur recherche les met sur la piste d'une affaire de bien plus grande envergure. Au cœur d'un climat post-RDA, sous tension, ils vont devoir mettre de côté leurs divergences pour faire avancer l'enquête. On a Tristan Petter dans les rôles, Félix Krenner, Nora von Wallstätten, Ben Hartmann, ce sont des acteurs connus en Allemagne, j'ai vérifié, qui sont connus et qui sont appréciés. Alors le réalisateur, là, il est parti d'une œuvre déjà existante pour réaliser son film. Il s'agit de la Isla Mínima. C'est un thriller post-franquiste espagnol sorti en 2015 où deux inspecteurs bien différents sont confrontés à une enquête aussi sordide que complexe. Voilà, donc il s'en est inspiré largement. Alors il nous dit, j'ai situé l'action à l'automne suivant la chute du mur, une période incertaine de notre histoire pendant laquelle un système ancien s'effondrait alors qu'aucun nouveau système ne venait le remplacer. Intéressant ça quand même. Alors, peu après la chute du mur de Berlin, l'incertitude et la méfiance dominaient dans les esprits des Allemands de l'Est, ce qui représentait un terrain idéal pour un thriller mythique, mystique peut-être qu'il deviendra, mais pour l'instant il est mystique, pardon, et inhabituel, situé à une période de notre pays peu décrite au cinéma. C'est le réalisateur qui nous parle. Je suis très intéressée par ce moment où les deux monnaies allemandes étaient encore en vigueur, où l'Est pensait que tout serait mieux à l'Ouest. Cette phrase où les industriels véreux de l'Ouest sont arrivés et ont divisé l'Est en concessions, comme il avait fait dans le Far West. Cette période a suscité beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de désillusions. On apprend des choses quand même grâce à ce film, qu'on ignore un peu quand même. La chute de l'ancienne République démocratique allemande est symbolisée par les images d'une industrie rouillée et délabrée que Christian Alvar, le réalisateur, a trouvé sur des sites ukrainiens. Par contraste avec le paysage marécageux extrêmement sauvage, le film raconte le conflit interne des personnes vivant là, entre déclin et renouveau, dans l'Allemagne tout juste réunifiée. Deux commissaires enquêtent dans cette région Mossad. Alors, il a choisi les deux acteurs, c'est lui qui a choisi, qui sont Tristan Petter dans les rôles principaux et Félix Kramer. Et il y a aussi Nora, j'ai donné son nom, Wallstätten, pour incarner les protagonistes dans ce monde déclinant et apocalyptique. Mais il y a également beaucoup d'autres visages marqués par la vie qui apportent une authenticité supplémentaire à l'histoire. Donc c'est curieux, il a choisi lui-même les acteurs pour qu'ils soient proches, le plus proche possible de l'histoire et que ça devienne une réalité. Ça dure 2h09, je ne sais pas si je l'avais dit, Lands of Murders. Ouais. Et puis, pour finir, ah oui, je l'ai trouvé formidable ça, il y a un documentaire français, il faudrait le choper mes chéris, ça s'appelle Les Grands Voisins, la Cité Rêvée. C'est de Bastien Simon, qui est un réalisateur, directeur de la photo. Il est scénariste, il est producteur, il est ingénieur du son français. C'est l'histoire de Maël. Enfin, ce n'est pas l'histoire de Maël. Il y a Maël, qui est un artiste sans papier. Il y a Adrien, luthier musicien, et d'autres résidents venus de tous horizons qui s'organisent pour donner naissance à une utopie moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire de près de 2000 personnes. Les grands voisins, c'est le nom qu'ils ont donné, à travers leur trajectoire et celle des membres fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et notre capacité à inventer d'autres manières de vivre ensemble. Que retiendrons-nous de cette expérience collective ? Pourra-t-elle perdurer, essaimer, résonner ailleurs ? Beaucoup de questions ? C'est vraiment à choper ou alors en DVD après. Ça dure 1h36 si on n'arrive pas à le trouver dans un cinéma. Bastien Simon a découvert ce lieu grâce à un ami qui lui avait demandé si cela l'intéressait d'aller voir des locaux vacants dans un ancien hôpital. Donc au début, il était un peu hésitant. Et puis finalement, il est tombé amoureux du site et de son calme. Il s'est installé en 2015, là, et il a commencé à se balader. C'était un univers un peu étrange et morose, c'est ce qu'il nous dit. Il n'y avait pas encore de couleur. Le lieu était en friche. Et en parlant avec des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'hébergement d'urgence. Et quand on rentre aux grands voisins, on nous demande de participer, d'avoir un projet. J'avais l'idée d'un atelier où je recueillerais les paroles de ceux qui vivent ici, dans cet ancien hôpital. Et progressivement, j'ai fait de la photo. Voilà, c'était intéressant. Puis j'ai sorti la caméra, finit-il, et je me suis donné comme défi de faire un film par mois. C'est une série réalisée sur l'année 2016 qui s'appelle « Les grands voisins, journal de bord ». J'allais à la rencontre de mes voisins et il s'agissait de montrer ce que j'en retirais. J'avais un tas de rushs et en fait, j'ai fait un an de repérage. J'avais des images que je voulais utiliser pour le film, d'où cette entrée en matière qui donne l'impression d'être un peu décousue. Ça représente en fait ce que je ressentais à l'époque. J'avais 1000 personnes devant moi et 1000 vies différentes. Cela a pris des mois pour gagner la confiance des hébergés. Alors pour financer son film, il a fait appel à des dons, hein, et il a quand même récolté à peu près 15 000 euros, je crois. Oui, c'est ça, 15 000 euros il a récolté. Eh oui, il est resté là, voilà. Le documentaire s'est fait dans l'urgence, c'est ce qu'il nous dit. Voilà. Alors, il y a des problèmes sanitaires et psychiatriques qui sont évoqués, mais la caméra, nous dit-il, ne rentre pas dans l'intimité des hébergés, comme dans leur chambre à coucher, par exemple. Voilà. Je ne suis pas un voyeur, nous dit-il. Bien, je crois que, je ne sais pas si tu en avais une bande-annonce, peut-être, non, peut-être pas. Non, de les grands voisins, la cité rêvée.
On va trouver ça.
Je pense qu'il y avait quelque chose peut-être intéressant. Alors, il nous dit aussi qu'est-ce qu'il est devenu. Pour ma part, je suis toujours au grand voisin, nous dit-il, mais dans un autre bâtiment. Ce que je fais, c'est que je quitte la cité le soir. Et cela, voilà. Et du coup, ça continue comme ça, voilà.
Et on écoute la bande-annonce.
Oui. Merci.
Ici à Saint-Saint-Paul, sur une durée courte, on a la volonté de créer une dynamique collective qui soit clairement orientée vers une logique sociale, de rendre l'autonomie aux personnes qu'on héberge.
Ce qui m'attendait, c'était là, et heureusement qu'en France, il y a un système solidaire, social, auquel je me suis adressé.
On est quasiment plus de 1000 sur le site. Ça fait beaucoup de rencontres en un an.
On a de quoi faire pousser les tomates et les salades. On a des pompes pour pondre des œufs. Concrètement, on peut vivre. On devrait essayer.
On est là juste pour 2 ans, on teste des trucs, ne vous inquiétez pas, on s'en va après.
Faire de l'alphabétisation, donner des cours de langue, des cours gratuits.
Ça marche, mec. Ça marche.
On ne veut pas d'instrumentalisation, on veut ouvrir un espace de débat, c'est déjà une bonne base.
Oh, I'm falling, you left me on my knees.
toujours une nouvelle rencontre, un nouveau musicien, un nouveau cours qui commence, qui recrée une dynamique, une motivation.
Ça, c'est le sens d'élargissement de l'horizon. On travaille des gens qui sont exclus toute leur vie. Et pour nous, travailleurs sociaux, de réexclure les gens, c'est ce qu'on essaie d'éviter absolument.
Je croyais que j'allais arriver en Europe, j'allais retrouver des billets d'euro pendus sur les arbres.
On est venu parce que le projet, il était beau. Et parce qu'une partie des gens qui sont ici, c'est des rêveurs.
Bonne
après-midi. Ouais, franchement, j'ai un sentiment d'espoir, plus d'espoir.
Hey, c'est le village que j'appelais de mes
vœux. Je rêvais d'un autre monde. Et la vie serait féconde.
Les grands voisins, la cité rêvée.
C'était un petit village au cœur de la capitale. En fait, au départ, ils avaient 5,4 hectares. Et maintenant, les deux tiers sont en travaux. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Mais on reste tout de même sur cette idée d'entraide, il nous dit, et de création d'une micro-société, de contact avec des publics différents. Donc, ça existe toujours. Voilà, moi, je pensais que c'était intéressant de vous en parler. Moi, j'espère trouver le DVD assez rapidement, parce que c'est quand même pas... C'est pas rien, quoi. C'est quelque chose de... C'est pas banal, quand même. Cette histoire. Je l'ai dit, je sais pas, ça dure 1h36, peut-être pas. Hein. Voilà, en fait, j'avais deux reprises également. Les fleurs de Shanghai, c'est un film taïwanais qui ça se passe au siècle dernier d'ailleurs. Il est sorti le 18 novembre 1998, ça dure 2h10. Et c'est chouette comme film, c'est une histoire. En fait, les fleurs de Shanghai, ce sont des courtisanes qui sont très demandées. C'est entre l'opium et le mahjong. Et c'est l'histoire d'un haut fonctionnaire, en fait, qui est partagé entre deux courtisanes dans ce film. C'est très beau. C'est très, très beau. Hein. Et puis, on a aussi... on nous ressort aussi, il était sorti en 1988, un documentaire, Height Hopes Film. C'est grands espoirs, ça veut dire, je crois. Hein, Et c'est quoi? Ben, ça parle des Pink Floyd. Voilà. D'ailleurs, on entend une chanson des Pink Floyd. Alors, les Pink Floyd, je rappelle, hein, c'était entre 1965. Oh, ici, on les a encore entendus en 2014. Ça s'est un peu étalé comme ça. Et puis, ils ont commencé par de la musique psychédélique et puis après, ils se sont dirigés vers le rock progressif. Ils sont considérés d'ailleurs comme les pionniers et comme les représentants majeurs de ces deux styles musicaux. Donc, voilà, il est très bien fait, ce doc. Il dure 52 minutes. Pour ceux qui aiment les Pink Floyd, vraiment, ça vaut la peine de le trouver quand même. Hein. Si vraiment vous les aimez, il est très, très bien fait. C'est réalisé par Donna Davis. Alors, juste pour rappeler, hein, il y avait David Gilmour, il y avait Nick Mason à la batterie. David Gilmour, c'est la guitare, c'est le chant. Il y avait Roger Waters aussi à la basse. Et Richard White au clavier, et Syd Barrett aussi qui était donc au chant et la guitare. En fait, Syd Barrett, lui, il est décédé, hein, il est décédé à 60 ans. Mais de toute façon, comme il se noyait complètement avec le LSD, il avait été exclu du groupe en 1968. Donc déjà, voilà, il est décédé en 2006. Et il était un des fondateurs du groupe avec Richard White. Le clavier, là, qui lui aussi est décédé en 2008, 2 ans après, à 65 ans. Donc, et c'est David Gilmour, en fait, qui a remplacé Syd Barrett à la guitare, après son départ en 1968. Bon, ils ont eu des petits problèmes, c'était un peu compliqué, mais voilà. Si vous les aimez, Height Hopes Film, 1988. Et ça ressort donc le 22 juillet. Voilà, pour les amateurs, c'est pour ça, hein, je l'ai mis de côté pour ceux qui rêvent encore des Pink Floyd, qui ont eu un succès phénoménal quand même. Voilà, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui.
Eh bien, très bien, merci beaucoup Anne pour toutes ces infos cinématographiques.
Ben, merci pour tes bandes-annonces aussi, voilà, et pour ta prononciation en espagnol. Hein. C'était quoi déjà? C'était, je ne sais plus.
Después, mañana después.
Tiempo después. Parce que moi, je voulais mettre CH au bout, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça devait être un autre pays. L'Argentine, non, c'est ça. Donc, t'aimes plus. Alors, merci, hein, merci pour l'accent. Bon, en tout cas, mes chéris, passez une bonne semaine. Hein. Profitez bien du soleil, voilà. Ah, bah, ça fait du bien quand même. Un bel été, là. Hein, ça va peut-être être plus joli que le début juillet, que la météo n'était pas terrible. Hein. Voilà, donc je vous quitte. Soyez prudents aussi encore, hein. Je vous l'ai déjà dit, le danger rôde encore. Il faut avoir un masque sur soi pour quand on rentre dans les magasins, puisque je crois que ça va devenir... C'est un peu obligatoire en ce moment dans les magasins.
C'est obligatoire, hein. Depuis lundi dernier.
Voilà, depuis lundi. Et puis dans les petites boutiques, de toute façon c'est mieux, moi, vous l'avez sur vous. Hop, et vous l'enlevez quand vous êtes dehors, quand vous êtes à l'air libre. Il n'y a pas de souci. Hein, soyez prudents pour vous et pour vos proches. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues.
Silence.
Aux yeux, tu sais.